France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 30 avril. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, joie prudente au lendemain de l'annonce du calendrier de déconfinement. Progressivement jusqu'au 30 juin, bars, restaurants, lieux culturels, stades, salles de sport et commerces vont rouvrir. Le détail, les réactions dans le journal après les autres titres, Agnès.
L'État confie chaque année des missions de service public à des entreprises privées pour un montant de 160 milliards d'euros. Est-ce trop ? Des fonctionnaires s'interrogent. Une bousculade mortelle en Israël ce matin et des élections palestiniennes repoussées. Et puis un petit brin d'optimisme avec demain le traditionnel muguet du 1er mai.
Invité, rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, on prend la température de la Bidenmania en France. C'est la fièvre, vous le verrez. À 8h20, pour commenter le plan de déconfinement, le grand entretien de la matinale avec trois maires de France, Cécile Gallien, Isabelle Assy et Philippe Juvin. Dialoguez avec eux au standard 01 45 24 7000.
France Inter.
Le bout du tunnel, c'est donc le 30 juin, avec la fin de toutes les restrictions, exception faite des discothèques et en tenant compte des situations locales. D'ici là, le déconfinement se fera en plusieurs étapes, annoncées par le chef de l'État dans un entretien qui paraît ce matin dans la presse régionale, mais dévoilé dès hier soir. Le 3 mai, donc lundi, fin des attestations de déplacement et des 10 km, reprise des cours en présence dans les collèges et les lycées, en demi-groupe à partir de la 4e. Le 19 mai, réouverture des terrasses, des cinémas, des théâtres, des musées et des stades avec jauge et un couvre-feu décalé à 21h. Le 9 juin, le couvre-feu décalé à 23h. Les restos et bars rouvrent leurs salles, les salles de sport aussi. Le télétravail est assoupli et les touristes étrangers peuvent revenir avec un pass sanitaire. De quoi faire renaître un espoir prudent chez ces jeunes Strasbourgeois rencontrés par Marion Ferrer.
Aller voir un match en tribune ou encore assister à un concert, Léna et Clara, 22 ans, en rêvent. Mais malgré les annonces, les deux étudiantes n'osent pas y croire.
On a peur. On se fait plus d'illusions sur ce qui va être fait ou pas. On attend de voir et puis
à tout moment ça peut changer ou ça peut être décalé.
Prudence également pour Frédéric, 28 ans.
Pour le moment, ils sont même pas en mesure de nous assurer le vaccin. C'est plus de l'utopie que quelque chose de cohérent. J'ai peur qu'une fois de plus, il y ait quelques changements de dernière minute, donc affaire à suivre.
Car le vaccin sera la condition pour accéder à ces grands événements. Les jeunes ne sont pas prioritaires, alors le PCR restera obligatoire. Jeanne, 24 ans, est prête à s'organiser.
Alors moi, je suis complètement en dépression. Enfin, vraiment, non, sans déconner, je dis ça en rigolant, mais ça va pas du tout là ce mois-ci. Je trouve que c'est très très long. Le moindre événement, je pense que je vais y assister. Je suis déjà en train de regarder ce qui va s'organiser. Alors moi j'adore le test PCR. Moi je le ferai si c'est la condition pour y aller, mais que ce soit un vrai événement, pas un événement à moitié.
Des jeunes dubitatifs qui attendent finalement le feu vert pour se faire vacciner et enfin revivre comme tout le monde.
Et ils ont raison d'être prudents chez jeunes, car le chef de l'État insiste, des freins d'urgence pourront être actionnés en cas de hausse rapide du taux d'incidence. Et si on dépasse les 400 cas pour 100 000 habitants, ce qui est le cas aujourd'hui d'une grande partie de l'Île-de-France, de l'Oise et des Bouches-du-Rhône. Inquiétude également avec l'apparition des premiers cas de variants indiens dans l'Hexagone, dans le Lot-et-Garonne et les Bouches-du-Rhône. Nous ferons le point dans le journal de 8h. Alors une territorialisation des mesures, les élus sont divisés, Élodie Forêt.
Que le gouvernement puisse continuer de territorialiser les mesures ne choque pas Caroline Cailleux, maire de Beauvais dans l'Oise, bien au contraire.
Dans l'Oise, c'est un département qui a payé déjà à lourd tribut depuis février 2020 et donc ça me rassure qu'il puisse y avoir ce principe de territorialisation en fonction des taux d'incidence qui sont encore élevés dans l'Oise.
Mais d'autres élus sont plus rétifs. Pour le député de l'Essonne, Robin Reda, proche de Valérie Pécresse, il ne faut plus territorialiser les contraintes mais les solutions. La stratégie vaccinale notamment.
Là où le virus circule le plus, il faut que tous les publics, quel que soit leur âge, quelle que soit leur pathologie ou non, puissent avoir accès au vaccin. Et c'est peut-être ça la bonne territorialisation, la territorialisation de la solution vaccinale.
Territorialiser les solutions, c'est aussi ce que réclame Éric Coquerel, député insoumis de Seine-Saint-Denis.
Avoir une position différenciée, ça serait tenir compte de la condition sociologique des habitants. Un autre exemple, il y a une fracture numérique terrible en Seine-Saint-Denis. Or, la plupart des rendez-vous pour prendre des vaccins aujourd'hui sont par des voies numériques. C'est là aussi quelque chose qu'on devrait corriger. C'est ça qui serait des solutions.
Éric Coquerel qui appelle le gouvernement à ne pas discriminer davantage ces territoires. Dans son interview, Emmanuel Macron, lui, se veut confiant. J'ai bon espoir que la France entière pourra passer à l'étape du 19 mai.
Le 19 mai, justement, ce sera aussi le jour J pour les commerçants qui restent inquiets, comme les restaurateurs d'ailleurs, d'un possible arrêt brutal des aides de l'État. Gaëtan Plénet est allé interroger des commerçants dans le 16e arrondissement de Paris. Reportage.
Le calendrier était grand ouvert depuis plusieurs jours déjà sur le comptoir de la boutique d'Alexia. Elle était prête à inscrire en majuscule le mot « réouverture ». C'est donc fait, mais pas vraiment à la page qu'elle espérait.
On s'attendait plutôt à rouvrir autour du 13-14. Au bout d'un an de cette situation, oui, c'est vrai qu'on est à une semaine près. Mais d'un côté, on va se dire bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'on peut anticiper au niveau du staff, au niveau des commandes et de plein de choses, et du coup anticiper sur la réouverture.
Dans son magasin de puériculture, Kenza, elle, est assez sceptique sur ce calendrier.
On voit ce qui se passe encore dans les hôpitaux, il y a le variant indien qui arrive. Moralement, ça nous ferait du bien d'ouvrir, mais après, est-ce qu'on réouvre pas trop tôt aussi ?
Pour Éric Mertz, le président de la fédération Allure, qui regroupe des professionnels du textile, le secteur est prévenu à temps pour pouvoir s'organiser, notamment au niveau du personnel. Mais pour lui, visibilité ne rime pas avec perspective.
On est dans une situation où, pour la deuxième année consécutive, on condamne la saison de printemps et d'été. On ne fait pas de marge. C'est pour ça qu'il faut que le gouvernement renforce les aides. J'espère qu'on ne sera pas les grands oubliés une nouvelle fois.
Les professionnels du secteur demandent donc le maintien du fonds de solidarité, malgré la réouverture annoncée.
Et c'est peut-être le grand gagnant de cette crise sanitaire, Amazon, le géant américain de la vente en ligne, avec des profits qui ont doublé au premier trimestre de cette année et un bénéfice record de plus de 8 milliards de dollars. Le 19 mai, c'est un mercredi, jour de sortie des films. De bon augure pour Richard Patry. Il est le président de la Fédération nationale des cinémas français.
On va d'abord ouvrir avec tous les films qui étaient là au moment de la fermeture fin octobre. C'est l'essentiel. Donc bien sûr, May Wen sera là avec ADN, bien sûr... Garçon Chiffon, bien sûr, Adieu les cons, et bien sûr Drunk, auréolé de son superbe Oscar du meilleur film en langue étrangère. Et puis, je pense que les distributeurs vont rediscuter entre eux pour pouvoir remettre en place ce calendrier de sortie de films. Moi, je ne suis pas inquiet. Alors, il va y avoir beaucoup de films, c'est sûr, mais vous savez, on a naturellement l'habitude de gérer à certaines périodes beaucoup de films, et je fais confiance à l'intelligence de tous les professionnels qui travaillent dans ce secteur et qui sont trop tristes d'être totalement à l'arrêt pour trouver des solutions.
Un propos recueilli par Jacqueline Petros. Le Brésil, de son côté, s'enfonce dans la crise avec plus de 400 000 morts et une manifestation prévue aujourd'hui sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro pour dénoncer la gestion de la situation par Jair Bolsonaro. Au niveau mondial, le cap des 150 millions de cas de Covid-19 vient d'être franchi. Le calendrier en France, le pass sanitaire, la vaccination, dossier complet à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 7h08, Agnès. Question, l'État sous-traite-t-il trop de missions au secteur privé ?
Et combien coûte chaque année cette externalisation ? Question que se pose le collectif Nos Services Publics, qui regroupe une centaine de hauts fonctionnaires, magistrats et agents publics, qui dénoncent donc des dysfonctionnements. Hélène Philly.
Des missions de conseil au plus haut de l'administration à des services de nettoyage dans un hôpital, l'État sous-traite de plus en plus d'activités. Le collectif s'est plongé dans les chiffres pour essayer d'en donner une vision globale. Le plus gros morceau vient des délégations de services publics, 120 milliards d'euros chaque année. Et puis il y a les marchés de services, plus de 40 milliards. Au total donc, l'externalisation publique représenterait pas moins de 160 milliards d'euros chaque année, l'équivalent tout de même du quart du budget de l'État. Mais est-ce que cela permet de faire des économies ? Le collectif en doute. Aujourd'hui, les ministères, les opérateurs de l'État ont ce que l'on appelle un plafond d'emploi, avec, au fil des années, un objectif de réduction d'effectifs. Alors, à défaut de pouvoir embaucher, on signe un chèque à une entreprise privée pour qu'elle fasse le travail, traduit l'un des membres du collectif, y compris dans des secteurs stratégiques comme le numérique. Les auteurs de la note regrettent une perte de sens et pointent les limites du système, espérant ainsi ouvrir le débat.
Une cérémonie tout à l'heure à 10h30 à Rambouillet en hommage à la fonctionnaire de police tuée la semaine dernière. Jean Castex lui remettra la Légion d'honneur à titre posthume. En Israël, le pèlerinage juif orthodoxe sur le mont Méron a tourné au cauchemar cette nuit. Une bousculade au milieu de plusieurs dizaines de milliers de pèlerins a fait au moins 44 victimes. Nous serons en direct dans le journal de 8h. Et puis dans les territoires, cela fait 15 ans que les Palestiniens attendent de pouvoir voter à des élections législatives. La date du 22 mai avait été fixée, mais elle est reportée. Israël n'a pas autorisé l'organisation du scrutin à Jérusalem-Est, a dit hier soir Mahmoud Abbas. Mais ce report a provoqué la colère de milliers de Palestiniens qui ont manifesté à Ramallah. Reportage de Frédéric Mettezo.
La mobilisation est venue gonfler la foule, descendue dîner après une longue journée de Ramadan. Amjad Chiab mène la liste Dignité et Liberté aux législatives. Il se définit comme indépendant, centriste et laïque.
On a un gouvernement de racaille, on a un gouvernement qui n'est pas de professionnel, juste des ministres de décor. On est dans un système de clientélisme très très corrompu et ça fait 16 ans, on n'arrive pas à faire des élections. La volonté du peuple, c'est de demander des élections.
Ahmad Jabari a 24 ans. Il avait donc 8 ans lors du dernier scrutin organisé en Palestine. Nous, les jeunes, on n'a jamais eu l'occasion de jouer un rôle dans notre vie politique. Là, c'est une possibilité de faire entendre notre voix. Et on nous la confisque, explique le juriste au chômage. Les slogans traditionnels de la Palestine résonnent et la police palestinienne encadre les manifestants. Nous menons une double bataille, raconte Omar, contre les forces d'occupation israéliennes et contre Mahmoud Abbas, à qui on envoie ce message. Nous devons renouveler cette classe politique. C'est notre droit de pouvoir organiser ces élections. Ramallah, Frédéric Mettezo, France Inter.
Il est 7h11. Demain, Agnès, nous serons le samedi 1er mai.
Et qui dit 1er mai dit défilé dans la après une mobilisation virtuelle l'an dernier. La CGT annonce une centaine de manifestations à Paris, départ à 14h de République, direction Nation, avec Force Ouvrière, la FSU, Solidaire, l'UNEF et l'UNEL. Et qui dit 1er mai dit aussi Muguet. Là aussi, l'an dernier, la vente avait été perturbée. Alors les fleuristes sont aujourd'hui en plein préparatif, comme a pu le constater Jeanne de Butler.
Sur les étals du magasin de Mathilde, les brins de Muguet ont pris la place des pivoines et pois de senteurs. La fleuriste s'empresse, tout doit être prêt avant demain matin.
Là, on est en train d'emballer les pots de muguet qui viennent tout juste d'arriver. Donc, c'est du beau muguet français. Il y a une belle clochette et une belle odeur aussi. Je trouve qu'ils sont particulièrement beaux cette année, ouais. Et puis, ils n'ont pas la même signification cette année avec ce qui se passe.
Une saveur particulière, puisque l'an dernier, avec le confinement, les fleuristes n'ont pas pu ouvrir pour le 1er mai. Alors là, ils comptent bien être au rendez-vous.
On en a commandé un peu plus que les années précédentes, ouais. Parce que les gens ont besoin de fleurs en ce moment. On sent qu'il y a vraiment une motivation à acheter de la fleur parce que les gens ont besoin de se sentir bien à la maison. Et puis, ils ont besoin d'un peu de douceur en ce moment aussi, ouais.
En brin ou en composition, les petites clochettes blanches représentent une grosse part du chiffre d'affaires. Florent Moreau, président de la Fédération des artisans fleuristes.
Cette année, évidemment, les fleuristes comptent énormément sur la vente du muguet, qui s'annonce très très bien parti d'ailleurs, somme toute. Hein. Le 1er mai est une journée très importante chez les fleuristes. Alors, c'est en général la 3 ou 4e journée en termes de volume de chiffre d'affaires. Donc oui, ça fait partie des jours qui sont quand même très importants dans l'année.
Chaque année, les Français dépensent plus de 20 millions d'euros pour l'achat du muguet.
Sans oublier, demain aussi, une demi-finale de Coupe d'Europe entre deux clubs français. C'est du rugby,
oui.
C'est à 16h.
Et ça vous plaît.
Et c'est Stade Toulousain, Bordeaux-Bègles.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, secret d'info sur Atanor, la loge maçonnique qui abritait une officine du crime.